RMC, face aux grandes gueules.
Face aux grandes gueules, aujourd'hui, c'est Agnès Pannier-Runacher. Bonjour madame.
Bonjour.
Ex-ministre de la Transition énergétique, députée EPR Ensemble pour la République du Pas-de-Calais. En 2022, après les terribles incendies en Gironde, Emmanuel Macron avait promis l'achat de 16 Canadair neufs avant fin 2027. Nous sommes aujourd'hui en 2026. On nous dit qu'il y aura 2 Canadair neufs pour 2028 et 2 pour 2032. Est-ce qu'on n'a pas perdu du temps ?
C'est surtout Canadair qui ne produit pas au rythme attendu. Et donc, c'est pour ça qu'on a dû se reporter sur d'autres moyens aériens. Je pense à la multiplication par 4 du nombre de Dash. Ce sont des avions qui participent aussi de la lutte contre les incendies. Je pense au renouvellement de la flotte d'hélicoptères qui largue aussi de l'eau. Et puis, évidemment, ce qu'on essaye de faire, puisque nous, on est très bien équipés en A400M, pour pouvoir les faire participer à la lutte contre les incendies. Alors, c'est pas complètement au point aujourd'hui, puisqu'il faut charger l'A400M, et donc il doit nécessairement se poser, charger, redémarrer, ce qui n'est pas la souplesse d'un Canadair. Mais c'est 4 fois la charge d'un Canadair, donc c'est intéressant. Donc, faute de production de Canadair dans le monde, on a trouvé des solutions alternatif pour pouvoir faire
Mais
face.
Jean-Luc Mélenchon accuse Gabriel Attal, lorsqu'il était Premier ministre, d'avoir annulé la commande de 2 Canadair, ce qui nous fait perdre du temps. Donc.
Alors ça, c'est faux. C'est fait partie des multiples fake news de la France insoumise. Hein. On savait que Jean-Luc Mélenchon était un menteur. C'est confirmé, puisqu'en fait, Gabriel Attal est le premier Premier ministre à avoir commandé des Canadair depuis 2007.
Oui, mais pas les 4 prévus. Il en a commandé que 2.
Il a commandé 2 parce qu'il ne pouvait pas livrer plus de 2 Canadair dans le calendrier qui leur était imparti.
C'était pas pour faire des économies ?
Et les économies, enfin, il faut que Jean-Luc Mélenchon révise. Un Canadair, ça ne coûte pas 50 millions d'euros. Ça coûte 80 millions d'euros. Donc 2 Canadair, ça coûte beaucoup plus que 50 millions d'euros. Donc effectivement, il y a eu des économies sur le budget global
de la sécurité civile,
mais c'était pas du tout pour annuler des commandes de Canadair. Donc ça, c'est la fake news absolue, ce n'est pas une nouveauté. En plus, Jean-Luc Mélenchon désarme la police, et là, il a voulu désarmer les pompiers, puisqu'il a voté contre les moyens supplémentaires que nous avons mis en place pour les pompiers, pour la lutte contre les incendies. Je rappelle que le budget des forces de secours civiles a augmenté de 60%.
Mais dans un pays qui a une industrie aéronautique importante, reconnue, pourquoi n'est-on pas capable de produire un Canadair français ? Et donc on est dépendant, comme vous l'avez dit, d'une entreprise qui en plus était en difficulté, qui a dû se relancer.
Qui a arrêté sa chaîne de production, qui l'a relancée.
Pourquoi on n'arrive pas à produire français sur le Canadair ?
Alors, c'est ce que je vous réponds, c'est-à-dire qu'en fait, on trouve des alternatives sur la base des avions qu'on connaît.
Mais ce ne sont pas des Canadair.
Qui ne sont pas des Canadair, des Airbus.
On
et des...
De l'eau avec des Airbus.
Exactement.
Mais on n'a pas trouvé le moyen pour les remplir en vol.
Exactement. C'est-à-dire que développer un nouvel avion, moi j'ai été dans l'industrie automobile, je connais un petit peu l'industrie aéronautique aussi comme ministre de l'industrie pendant 4 ans. C'est des cycles longs. Vous développez pas un avion en 2 ans. Vous avez besoin de 4-5 ans avec toute la partie certification, sécurité d'un avion. En revanche, sur la base, et nous sommes un des premiers constructeurs mondiaux d'avions, eh ben, on a essayé de diversifier notre risque. Ouais, mais... C'est des hélicoptères, c'est la 400M, et effectivement, c'est ce projet européen d'avoir un avion européen qui nous permette de ne pas avoir besoin des Canadair.
Parce que du coup, tous les Européens sont dépendants du Canadair. Enfin, l'Europe,
sur
on va dire, méridionale.
Alors que tous les Européens sont confrontés à ces
incendies. Alors que les Européens maîtrisent l'Airbus depuis 50 ans, depuis A à Z. Enfin, moi, je n'arrive pas à comprendre en termes de stratégie qu'on sait qu'il y en aura de plus en plus des feux de forêt. Pourquoi on n'est pas sur les plans d'un Airbus qui ressemble à un Canadair.
On est sur ça. C'est-à-dire que ça a démarré, mais effectivement, ça ne se fait pas en claquant dans les doigts.
On sera un jour capable de produire cet Airbus ?
Moi, j'en forme le vœu, hein, mais je peux pas vous répondre là. Mais c'est clair que cet élément-là, et puis vous parlez de l'Europe du Sud, mais maintenant, c'est l'Europe du Nord.
Hein. Ouais, bien sûr,
c'est bien ça le changement nouveau. C'est toute l'Europe qui doit être équipée.
Du coup, moi, j'attirerai votre attention, puis j'aimerais avoir vos réponses, parce que un Canadair, pour éteindre le feu, il a besoin de pouvoir se poser dans des zones où il y a de l'eau.
Là, en ce moment, il écope la Seine, hein, ceux de Fontainebleau.
Ouais, mais du coup, moi, je me pose la question, parce que le vrai enjeu demain, c'est l'eau, quoi. On fait quoi sur l'eau? On fait quoi sur l'agriculture qui recule au profit de la désertification? Et ces zones-là, on sait qu'elles sont complètement les plus à même de brûler et de brûler vite. Et sur la politique de l'eau, enfin moi je... J'ai quand même en tête tout ce qui s'est passé autour de Sainte-Soline et de voir cet hiver la photo de la bassine de Sainte-Soline vide parce qu'il y a encore un recours administratif et que c'est inondé autour de la bassine. Je me dis
recours judiciaire.
Bah oui, mais n'empêche que il y avait 10 centimètres d'eau.
C'est pas un recours de l'administration, non, mais c'est un recours 17, devant le juge.
Il y avait 17 centimètres d'eau sur le blé autour de la bassine et la bassine était vide. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en France pour s'adapter au réchauffement climatique et pour continuer à produire un minimum de bouffe et avoir suffisamment d'eau potable pour les gens déjà?
Point essentiel, hein. Moi je vous rejoins totalement. Je rappelle qu'en 2022, Julien de Normandie, qui est un ministre de l'agriculture qui avait vraiment pris ce sujet à bras-le-corps, avait lancé le Varenne de l'eau. C'était quoi le Varenne de l'eau? C'était justement trois choses. Sécuriser la ressource en eau, adapter l'agriculture, hein, parce que on va pas produire de la même manière en Occitanie en 2050 qu'aujourd'hui et qu'on produisait en 2000. Ce qui est en train de se passer dans la modification du climat en Occitanie conduit à se poser des questions sur le maintien des cultures qu'on connaît depuis 50 ans, qui ont fait le succès de l'Occitanie. Et simplement, quand il y a pas d'eau, vous pouvez pas rien faire pousser. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Donc c'est pas juste du stockage, bien sûr il faut du stockage, mais il faut aussi beaucoup d'autres mesures, des espèces plus résilientes, une évolution de l'agriculture, un accompagnement des agriculteurs parce que ça coûte de l'argent et qu'on fait pas ça avec une baguette magique.
Parce que simplement un mot, parce que on dit toujours oui, il faut alors les canadaires, il faut aller produire, mais on n'a pas d'argent, il faut aider les agriculteurs,
on n'a
pas d'argent.
L'argent, hein, la PAC c'est 9 milliards d'euros pour la France, c'est pas l'épaisseur du trait, bien l'Orient.
Vous avez vu le décrochage alarmant des finances publiques, on en parlait ce matin.
La PAC c'est de l'argent européen, c'est pas de l'argent français.
Avec des économies, c'est de l'argent français parce que indirectement,
mais c'est quand même un peu de l'argent européen.
Il y a un décrochage quand même très alarmant des finances publiques françaises.
Pour ceux qui n'aiment pas l'Europe.
Là on rentre dans une campagne présidentielle où tout le monde nous fait des belles promesses, il y a plus d'argent et j'attends de voir quel candidat aura le courage de dire on n'a plus d'argent, donc il n'y aura pas de promesse, on ne pourra pas dépenser un euro supplémentaire.
Attendez, je pense que sur ça, le centre, le bloc central, Gabriel Attal est le premier à dire...
Mais vous avez cramé la caisse.
Attendez.
C'est vous qui l'avez cramé la caisse. Le quoi qu'il en coûte, c'est pas l'UMP, c'est pas le PS,
Il y a deux minutes, on nous reprochait de ne pas avoir commandé à cette Canadair et d'avoir fait une économie. Deux minutes après, on nous dit c'est scandaleux, vous avez dépensé de l'argent. Moi, je l'ai entendu, ce message-là, mais alors pendant 7 ans. C'est-à-dire que quand il fallait faire des politiques publiques, on nous a expliqué que on ne faisait pas assez. Et quand on faisait.
L'opposition est très ambiguë.
Moi, je n'ai pas entendu une mesure d'économie qui tenait la route de la part des oppositions. Moi,
Oui, mais le bloc central sera quand même mal placé pour dire, écoutez, on a trop dépensé, désormais, on va mieux gérer. Ou alors, peut-être, vous avez tiré les conséquences de tout ça. Mais...
Alors, madame, dans la société civile, il y en a plein des idées et des bonnes idées. C'est juste que la classe politique ne veut pas nous écouter et ne veut pas travailler, ne veut pas proposer des choses.
Des idées
qui sont
pour faire des économies.
Oui, par exemple, remettre à plat, simplifier les aides sociales en créant un revenu universel, sachant que plus personne n'aura de boulot dans quelques années et que les aides sociales, c'est un espèce de grand fourre-tout auquel plus personne ne comprend rien. Bah si, par exemple, ça c'est une bonne idée. Et en fait, elle a été chiffrée, étudiée par plusieurs think tanks depuis une décennie et il n'y a aucun politique qui veut nous écouter. Donc en fait, peut-être que le problème de toute la classe politique, c'est que vous ne voulez pas écouter les bonnes idées des citoyens, notamment sur le climat et sur l'IA. Et donc c'est parfait parce que j'en viens à ma question. Et ainsi, j'ai repris la parole. Ma question pour vous, elle est de manière plus générale sur l'écologie. Dans le premier mandat d'Emmanuel Macron, je ne dirais pas que rien n'a été fait. Je pense que on aurait pu, sur certains sujets, être plus ambitieux et avoir une vision plus globale, mais qu'au moins, vous avez quand même défendu l'écologie. En revanche, sur le deuxième mandat, Emmanuel Macron et son gouvernement ont tout détricoté. Les voitures thermiques interdites à la vente à partir de 2035, les pesticides qui ont été... Bah, qui devait être interdit et Stéphane Séjourné est revenu dessus.
Non, c'est pas Stéphane Séjourné, là, vous mentez. C'est pas Stéphane Séjourné, la position de la France était contre.
Oui, mais l'Union européenne est revenue dessus.
Donc c'est pas les gouvernements Macron.
Stéphane Séjourné, il a été nommé par Emmanuel Macron. Le commissaire de l'Union européenne.
Ce n'est pas le commissaire européen qui décide ça.
Ah ben non, ça c'est les pays européens. La grande amie, monsieur Macron.
C'est faux. C'est pas le commissaire européen. C'est pas plus la commissaire. Elle n'a pas la présidente de la Commission européenne ne peut pas prendre ses décisions.
Mais qui décide alors?
C'est le Conseil des ministres européens, donc c'est les 27 pays où nous représentons 15% des voix, oui, c'est-à-dire ce que pèse notre population, et c'est le Parlement européen. Ce sont les deux endroits où on décide de ça. Il faut arrêter de dire que la présidente de la Commission européenne a un pouvoir de décision.
Donc, ce sont des décisions. Pour ou contre la réintroduction du thermique?
Mais ce n'est pas lui qui décide.
Ce n'est pas lui qui décide.
Et par ailleurs.
Donc moi, je m'en tiens à la position de la France.
Mais c'est pas la position de la France. Vous mentez, la position de la France, c'était contre. Nous avons sorti une tribune spécifiquement sur ça. Je l'ai signée. Donc, je sais de quoi je parle. C'était contre. La position constante du président de la République.
Bref, j'ai plein d'autres exemples, donc c'est pas très grave.
Non, mais donnez-moi d'autres exemples. Mais s'ils sont tous du même niveau, on est bien partis.
Oui, mais les pesticides, vous les avez réintroduits.
Quel pesticide a été réintroduit? Flora Gebali, quel pesticide?
Toutes les lois qui sont passées, c'est la loi du plomb.
Laquelle?
La loi du plomb, par exemple.
Elle n'a pas été réintroduite. Ça n'a pas été réintroduit.
Il y a eu un grand débat.
On nous reproche suffisamment.
Ah oui.
Ça n'a pas
été réintroduit. Ça n'a rien changé. Les gens sont pas contents.
Non, je suis désolée.
Bon, bref, ma question pour vous. Non, mais on va.
Mais donnez-moi d'autres reculs.
Non, mais c'est pas vrai. En fait, sur la question.
D'autres reculs.
Soyons
précis.
Les ZFE, ma prime rénov, rétropédalage.
C'est nous qui l'avons créé.
Oui, mais rétropédalage en ce moment.
Quel rétropédalage? Il n'y a pas des milliards d'euros là en ce moment sur ma prime rénov? Vous ne pouvez pas rénover?
Ils ont été bloqués.
Bref, je suis désolée, mais il y avait des centaines de milliers de Français, et je le dis pour ceux qui nous écoutent, qui déposent des projets à ma prime rénov. Et je ne voudrais pas qu'ils pensent.
Je ne voudrais pas qu'ils pensent que c'est fini.
Parce que rien ne serait plus dramatique. Les budgets ont été réduits pour la raison qu'on nous dit, c'est qu'il faut faire des économies.
Le fonds vert a quand même été réduit.
Le fonds vert a été réduit, mais qui l'a créé, le fonds vert?
Moi, j'ai le Monde sous les yeux et c'est ma source. Donc, je peux vous donner toutes mes sources et je les posterai sur mes réseaux sociaux après le débat pour que tout le monde sache de quoi on parle.
Faut être précis.
Ma question, qu'est-ce que vous pensez du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron sur l'écologie?
Alors, réponse.
Moi, ma réponse, c'est simple, hein, 2022-2024, on n'a jamais autant accéléré sur l'écologie. Vous regardez la baisse des émissions de gaz à effet de serre. On fait sur tous les deux mandats, on fait 4 fois plus vite que nos prédécesseurs immédiats, c'est-à-dire le gouvernement Hollande. Ce gouvernement où les écologistes étaient aux affaires. 4 fois plus vite. Sur l'adaptation au changement climatique, c'est nous qui sortons le plan, c'est nous qui mettons dans la réglementation une trajectoire à plus 4 degrés, ce qui nous a valu énormément de critiques. Sur les incendies, plan eau, etc., tout ça a été fait. À partir de 2024, je le dis, moi j'ai quitté le gouvernement. J'ai fait le choix de quitter le gouvernement en 2025.
Il n'y a plus de majorité.
Ça a été un enfer.
C'est plus compliqué.
Ça a été un enfer parce qu'aucun texte digne de ce nom passait. Oui. Il était soit déstructuré par l'extrême droite, soit déstructuré par l'extrême gauche.
La dissolution a été une erreur fatale.
La dissolution n'a pas aidé à porter des politiques.
La dissolution a gâché le deuxième quinquennat de Macron.
Je pense qu'on peut factuellement constater que depuis la dissolution, c'est très difficile. Il ne se passe pas rien, mais c'est très difficile de passer des textes.
Il se passe pas grand
chose. Et c'est surtout très difficile d'être dans la continuité de politique qu'on a parlé.
Justement.
On parlait du Varenne de l'eau, ça s'est plutôt arrêté en 2024.
Alors, on va continuer d'en parler et on va évoquer aussi cette loi sur l'aide à mourir, parce que vous l'avez défendu vous-même, vous étiez plutôt engagé sur cette loi. Oui. Elle est passée à 50 voix près hier, elle continue à faire débat. On va en discuter avec les grandes gueules, Barbara Lefebvre qui posera sa question, Flora Gebali, Didier Giraud. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Là. 11h21, les grandes gueules sont là en direct sur RMC, RMC Story, avec autour de la table Flora Guebali, Barbara Lefebvre et Didier Giraud. Et face au GG, c'est Agnès Pannier-Runacher, l'ex-ministre de la Transition énergétique, députée du Pas-de-Calais. Vous soutenez Gabriel Attal pour cette présidentielle ?
Tout à fait.
Vous êtes derrière lui. Question de Barbara Lefebvre.
Oui, question justement, on va revenir sur la présidentielle, c'est intéressant. Vous avez dit tout à l'heure, dans votre échange avec Flora, et depuis 2004, tout est détricoté, tout parce que
j'ai pas dit ça.
Vous avez dit que
j'ai
tout était
très difficile.
C'est très difficile. Non, mais vous avez dit ensuite difficile. Que tout ce que vous essayez de faire ne marche pas. Pourtant, vous êtes au pouvoir, alors vous n'avez pas la majorité, mais vous n'arrivez à rien faire à cause du pouvoir, RN hein. et de la LFI qui vous mettent des bâtons dans les roues. Bah oui, bah, ils ont été élus.
Ah mais je dis pas le contraire, j'essaie juste d'expliquer pourquoi les
et 7 millions de voix
pour
le NFP
ne peuvent pas être appliquées puisque nous avons des opposants qui ont été tout à fait légitimement élus.
Dans une démocratie, il y a des opposants.
Je dis pas le contraire.
Alors, d'ailleurs, question, Baba.
Et d'ailleurs, votre candidat, monsieur Attal, a fait un choix en juillet 2024. Je sais qu'il n'aime pas qu'on lui rappelle ce choix, mais il avait tellement peur d'une majorité du Rassemblement national qu'il a appelé à voter pour
contre le Rassemblement national.
Pour la LFI, il avait dit je préfère encore un 70e député LFI que un 290e député RN.
Donc, et oui, parce que ça change beaucoup les
donc,
choses.
Vous me l'accorderez. Votre candidat, monsieur Attal, qui n'est pas au mieux dans les sondages pour l'instant, enfin, il n'est peut-être pas encore candidat, on verra. Si jamais.
Je crois qu'il est candidat, là,
il est candidat.
Là, ça, c'est vrai, ça. C'est...
Ah, il est candidat, mais au final, est-ce qu'il sera vraiment sur la ligne
candidat,
de départ? On ne sait pas.
Il est candidat, en tout cas.
Eh bien, écoutez. Si jamais il est candidat et que le second tour, il n'arrive pas à se maintenir pour être au second tour et qu'on a un second tour Rassemblement National LFI, Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon, est-ce que monsieur Attal va recommencer à demander à ce qu'on vote pour LFI ?
Mais je pense surtout que nous, notre travail, c'est d'être au second tour. Oui, en fait, la question, elle se pose pas dans ces termes.
Ah oui. Non,
mais... Et on sait tous qu'une élection qui opposerait Marine Le Pen à LFI, à Jean-Luc Mélenchon, serait catastrophique. Parce que ce sont pas des projets qui sont au service des Français. Mmh. On aurait un menteur contre une voleuse.
Oui.
C'est quand même compliqué.
Et donc, votre candidat, il appellera à voter pour le menteur ou la voleuse?
Mais mon candidat, ce qu'il doit faire, c'est d'être au second tour.
Oui, et s'il n'y est pas.
Et donc, nous, on travaille pour ça. Mais
pour
moi,
l'instant,
je suis
les
pas
sondages
dans la
ne le donnent pas en position d'être au second tour, hein, madame.
Ah, ben, pour le moment, si. Pour le moment, il est devant Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe est également devant Jean-Luc Mélenchon. Donc, vous voyez que.
Non, j'ai pas vu. Le dernier sondage, c'est Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, coude à coude, à 15%. Et monsieur Attal est derrière.
Tout à fait ça.
Ça mais
de toute façon,
sondages.
Moi, je vais regarder le sondage qui vous intéresse.
Mais madame Pannier-Runacher.
Non, mais moi, mon sujet. Il dira rien. Il dira abstention.
Mais madame, en fait, la question, elle se pose pas dans ces termes-là. Bon, voilà, moi, je vis pas dans la politique fiction.
Non,
peut-être que vous, peut-être que vous, ça vous plaît, la perspective d'avoir Jean-Luc Mélenchon.
Non, moi, rien ne me plaît. Marine Le Pen. Ce qui me plaît, c'est que le macronisme
s'arrête,
ça, c'est sûr.
Moi, j'estime, et avec ce genre de propos, finalement, est-ce que vous votez LFI ou est-ce que vous votez RN?
Je le dis. Moi, madame, je suis constante. Depuis 2017, je ne suis pas.
Parce que là, vous faites le jeu des extrêmes. Ce genre de propos fait le jeu des extrêmes.
On a le droit d'être contre le camp central, peut-être, non?
Vous avez tous les droits. Vous êtes vous êtes libre de votre choix, mais j'essaye juste d'expliquer que lorsque on affirme avec beaucoup de véhémence que le bloc central c'est pire que tout, ça veut donc dire que vous faites le jeu des extrêmes.
Écoutez, je vois 3000 milliards de dettes, je vois une insécurité qui n'a jamais été aussi importante, je vois des pédocriminels sortis de prison ou même jamais mis en prison, je vois une immigration incontrôlée, je vois un recul de la laïcité. Donc excusez-moi, je ne trouve pas. Alors je sais que vous êtes fier de votre bilan et heureusement.
Je suis pas fier de mon bilan.
Ben non,
moi j'essaye de le regarder
mais
lucidement.
Les Français ne sont pas fiers de votre bilan.
Mais c'est ça qui est dommage. Ce discours qui est très délétère, que vous portez et qui pourrait d'ailleurs être largement nuancé parce que vous alimentez les peurs des Français.
Bien sûr.
Vous alimentez ce sentiment de recul de la France alors que sur plein de sujets, nous sommes en progrès, notamment sur l'écologie, justement, notamment sur l'accompagnement des plus fragiles. Je veux dire, il faut aussi savoir le nombre de crises qu'on a traversées. Lorsqu'on a fait le quoi qu'il en coûte, personne n'était contre.
Ah si, moi j'étais contre.
Oui, mais c'est vrai
COVID,
que,
c'est vrai.
C'est vrai que les opposants à l'époque ne demandaient pas
à des gens à rien faire sur leur canapé pendant des années. Non, excusez-moi, non.
Et alors pas pendant des années,
si, ça a duré des années.
Le sens c'est de la nuance ne vous caractérise pas.
Ça a duré des années au final.
C'était peut-être le confinement qui
a remboursé. Et peut-être on peut se dire que ça a sauvé notre économie en réalité parce qu'elle se serait effondrée. Et si vous interrogez les étrangers, je peux vous dire qu'ils auraient été très demandeurs du quoi qu'il en coûte. admiratifs.
Ils étaient admiratifs du quoi qu'il en coûte. Je pense qu'ils sont moins admiratifs de notre taux d'imposition global.
Et les faillites d'entreprise,
je pense que ça très bien posé le sujet.
Agnès Pannier-Runacher, pour revenir sur la présidentielle, et vous dites vous-même, il y a une menace de se retrouver, selon vous, dans un second tour entre Le Pen et Mélenchon. Alors justement, pour aller au bout de cette logique, pourquoi organiser cette primaire, alors qui s'appelle pas primaire, mais qui est une primaire entre Gabriel Attal et Édouard Philippe? Pourquoi deux candidats du Bloc central? Pourquoi pas se mettre tout de suite d'accord, être en ordre de marche et être en capacité à la fois de peut-être finir premier du premier tour et pas deuxième, comme vous montrez le sondage, et puis surtout peut-être de d'éviter la dynamique Mélenchon qui, semble-t-il, est en train de se mettre en place. En fait, vous, pour l'instant, vous n'avez pas mis en place l'arme nécessaire pour éviter ce deuxième tour.
Alors ça, je le partage pas. D'abord parce que, encore une fois, Jean-Luc Mélenchon n'est pas du tout aujourd'hui comme au deuxième tour, pas du tout. Et deuxièmement, il progresse malheureusement faute de candidats, je dirais, sur dans le camp du nouveau Front populaire, semble-t-il. Hein,
Oui, mais il progresse.
Et deuxièmement, une campagne, ça se joue sur 10 mois. Hein, ça se joue pas sur 2 mois. On sait tous que les cartes ont été largement rebattues dans les élections précédentes. Je parle pas de celle de 2022 qui était un peu particulière, mais je parle de celle de 2017, de 2012 et de 2007.
Ça se joue à la fin.
Les candidats qui étaient en tête des sondages sont arrivés très loin derrière. Donc ça, c'est une réalité. Donc laissons chacun faire campagne sur son projet. Je pense que c'est ce qu'attendent les Français.
Mais c'est quoi la différence entre Gabriel Attal et Édouard Philippe concrètement sur le fond, en fait, au-delà des différences de personnalité?
Différence de personnalité, oui, différence de positionnement politique aussi. Hein. Nous,
il
on est
plus à gauche, Attal.
Oui, je crois qu'on peut dire qu'il est dans le dépassement.
Donc c'est le centre gauche et Édouard Philippe c'est le centre droit.
Est-ce que, en tout cas, il est dans le dépassement. Il est dans le dépassement. Il est pour une vision aussi peut-être plus moderne qu'Édouard Philippe. C'est le premier à avoir posé les enjeux de l'intelligence artificielle comme étant une priorité absolue pour les années qui viennent. C'est celui aussi qui fait de l'école une priorité absolue. Il a été ministre de l'Éducation nationale. Ça a plutôt marqué les esprits, me semble-t-il, et le travail qu'il a fait a été très largement reconnu. Ça n'a pas duré plus de 9 mois, mais c'est une réalité. Et moi, je crois profondément aujourd'hui que l'école est un élément clé du projet que nous devons porter.
Oui, mais sur le fond, finalement, vous défendez le même bilan. Vous défendez le même bilan.
Sur le fond, c'est clair qu'on n'est ni extrémiste de gauche, ni extrémiste de droite. Si vous allez par là,
bien sûr.
Effectivement, on croit que l'Europe est un élément essentiel si on veut bâtir une souveraineté française, parce que on est plus fort à 450 millions de citoyens qu'à 68 millions. Ça nous distingue de manière forte de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. On croit que l'économie de marché, c'est pas une vue de l'esprit. On croit qu'il faut que le salaire paye plus, mais que ça passe par le travail.
Non, mais ça, c'est le discours de quelqu'un qui a été 10 ans dans l'opposition,
madame. Ça nous différencie.
Comment deux anciens premiers ministres, dans les 5 derniers premiers ministres qu'on a eus, peuvent avoir ce tel discours?
Non, mais
de dire, il faut que le travail paye plus, il faut qu'on baisse la dépense sociale, il faut qu'on redonne un peu de bouffée d'air à l'industrie, il faut qu'on réindustrialise.
Mais parce qu'on peut aussi vous parler de ce qu'on a fait, si vous voulez, monsieur.
Comment des gens qui ont été aux manettes il y a moins de 10 ans peuvent tenir ce discours-là?
Juste un exemple.
Une question, moi.
Prenons l'industrie.
Oui.
Le seul président de la République à avoir un bilan positif en termes d'emploi net, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Donc c'est pas des chiffres qu'on trafique. Le seul président de la République depuis 1980, depuis 1981, qui a des chiffres positifs en termes d'emploi net, c'est Emmanuel Macron. Les data centers, c'est pas de l'industrie, ce n'est pas classé dans les activités industrielles. Donc, l'emploi manufacturier, aujourd'hui, a progressé de manière nette. Ça n'était pas arrivé sous Chirac, Hollande, sous Sarkozy et sous Mitterrand.
Vous dites qu'il y a deux offres.
Donc à un moment, les faits sont têtus.
D'accord. Vous dites qu'il y a deux offres différentes entre Édouard Philippe et Gabriel Attal. Comment vous allez vous départager? Comment va le faire le choix? Parce qu'il faudra qu'un seul candidat, j'imagine.
On est d'accord. Il faut un seul candidat et c'est une dynamique de campagne. Une dynamique de campagne, ça se construit avec les Français. Ça se construit sur le terrain aussi. Ça se construit avec les Français. Et quand vous avez une dynamique de campagne, ça se voit. Donc moi je suis confiante sur le fait qu'au mois de décembre, qu'au mois de janvier, il y a une clarification. Et je pense que Gabriel Attal a toutes les qualités pour effectivement donner cette dynamique de campagne. Mais je le dis très clairement, il faut effectivement un seul candidat sur ce bloc central, parce que sinon c'est illisible pour les Françaises et les Français. Et je trouve ça bien qu'il y ait plusieurs propositions, parce que ça donne le choix aux Français. C'est pas une espèce d'accord d'appareil, etc. Les Français, ils font aussi leur choix.
Question, Flora, tu voulais parler ?
Non, vous dites que il faut pas insulter. Je me souviens plus de votre formule exacte, mais que l'économie de marché, vous avez pas honte d'être pour l'économie de marché. Est-ce que vous pensez que on peut être écolo et libéral et pour le libre-échange en même temps ?
Alors, je pense que quand on est dans un pays qui régule comme on le fait l'économie, quand j'entends certains qui nous accusent d'être ultra-libéral, bon, il faut savoir raison garder. Nous sommes des libéraux tempérés. Nous sommes pour l'économie sociale de marché, ce qui est d'ailleurs au cœur du projet européen. C'est-à-dire que la liberté d'entreprendre est effectivement garantie. On est pour l'innovation, on est pour développer des projets, mais il y a des règles. Les règles sont importantes en France.
C'est l'économie sociale de marché.
On peut aller jusqu'à... Les règles en France sont importantes. On nous parle suffisamment même de complexité. Je pense qu'on a besoin aussi de simplifier, de clarifier, ce qui ne veut pas dire déréguler. Donc sur le libre-échange, pour vous répondre, oui au CETA. Je sais qu'on a un différent sur ça. Mais moi, je crois que ce traité de libre-échange qui précisément intègre des conditions écologiques, intègre des conditions sociales, est un bon traité. La preuve, il est gagnant pour la France, il est gagnant pour les filières agricoles.
Pas toutes.
Le Mercosur n'est pas un bon traité, particulièrement parce que c'est un traité qui a été négocié depuis plus de 20 ans. Hein. Il est passé dans les mains de tous les présidents de la République depuis, je crois même, en tout cas, à minima Sarkozy. Et donc même avant, vous avez raison.
Chirac. Et donc,
il a été... construit dans une manière ancienne où notamment le dérèglement climatique n'occupait pas l'espace de cette manière, et il est dangereux pour certaines filières agricoles, nous le savons, et c'est pour ça que nous sommes contre.
Merci Agnès Pannier-Runacher, oui, merci d'avoir été avec nous face aux grandes gueules, ex-ministre de la transition énergétique et députée EPR du Pas-de-Calais.
Merci
bonne journée, bonne fin de journée à vous.